Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est 30 minutes, tout compris, avec un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, présentée aujourd'hui par Pierre Hiverna de la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale, qui est notre partenaire. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Un Pierre de retour de reportage alors.
Voilà, je suis parti à une heure de New York, dans la vallée de l'Hudson, et je vous emmène à la rencontre d'un chef qui s'appelle Dan Barber.
Chouette alors, c'est à 12h25 tout à l'heure. Bonjour Matteo Caranta.
Bonjour Caroline.
Vous aussi vous êtes allé assez loin pour votre madeleine du jour.
Assez loin et tout près puisqu'il est passé par Paris. J'ai rencontré le réalisateur Patricio Guzman qui signe le film La Cordillère des Songes qui est en ce moment au cinéma.
Et qui lui est chilien. Quant à notre plat du jour, il va avoir un petit goût de miel à l'occasion de la diffusion ce soir sur France 5 d'un documentaire sur ce nectar de plus en plus prisé, mais aussi de plus en plus rare. Près de 40 000 tonnes de miel sont vendues chaque année en France, mais nous n'en produisons que 10 000. Et les apiculteurs en récoltent 3 fois moins qu'il y a 30 ans. Alors d'où vient le miel que nous consommons? Et comment être sûr que celui que nous mangeons est bon, voire que c'est encore du miel, quand on sait qu'il est devenu l'un des produits les plus frauduleux au monde? Selon certains professionnels, la moitié du miel vendu sur les étals en vente directe ne correspondrait pas à l'étiquette affichée. Alors le miel, entre or jaune et sirop de sucre, eh bien c'est notre dossier du jour.
Chacun il a son miel.
Moi, voilà.
Chacun a son miel.
Si je veux faire de la cuisine et faire relever le plat, je vais prendre du châtaignier. Si je veux un miel doux qui passe pour tout le monde, pour des enfants, c'est un miel très abordable, je vais prendre un acacia. Si je veux aller dans ma tisane, un petit goût mentholé frais, je vais prendre du tilleul.
Quand il est crémeux comme ça, sur une tartine beurrée, là, un vieux pain au grille-pain, c'est délicieux.
Deux invités pour parler du miel aujourd'hui avec nous. Franck Alétru, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du syndicat national d'apiculture, bienvenue à vous.
Merci.
Et Yannick Pertraud, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes apiculteur, éleveur, producteur,
cela, oui.
Bio, entre Yvelines et Picardie, ça c'est ce qu'on peut lire sur votre site.
Exactement.
Les miels d'Ade d'Ambroise, les ruchers d'Ade d'Ambroise, ça c'est votre nom.
C'est le nom, oui.
Et vous êtes si à Saint-Nom-la-Bretèche, dans la vallée de Chevreuse, mais vous allez jusqu'à la Picardie.
C'est ça.
Vous avez combien de ruches en tout?
Un petit peu moins de 200.
C'est pas mal quand même déjà.
En bio, ça commence déjà à faire un certain nombre, oui.
On entendait un extrait du film qui sera diffusé ce soir donc sur France 5, La bataille du miel, avec cette immense variété de miel. Chacun a son miel. Ce serait quoi votre miel à vous, Franck Alétru?
Alors vous savez, les producteurs de miel, ils sont comme les amateurs de fromage. À force de consommer du miel, on finit par aimer les miels de plus en plus aromatiques, de plus en plus forts. Donc c'est vrai que les miels soutenus, les miels très rustiques, les miels un peu foncés, qui ont vraiment du goût, sont les miels...
Châtaignier quoi, pour le dire clairement.
Châtaignier, miel de forêt, des miels de garrigue, des miels de maquis. Ce sont des miels qui sont vraiment très très agréables pour nous qui sommes un peu habitués trop aux saveurs du miel. Le miel d'acacia, comme le disait le collègue dans l'émission qu'on entendra ce soir, c'est un miel très doux qui est excellent pour démarrer la découverte du miel au niveau du palais d'un enfant.
Vous êtes d'accord, Yannick
Pertraud ? L'éducation du palais.
Oui, je suis d'accord. J'ajouterai aussi le miel de printemps, qui est une spécificité qui a pas mal notamment de goût floral et qui permet aussi de commencer très très jeune sur la petite tartine du matin.
Mais celui qu'on trouve le plus sur tous les étals, c'est le miel toute fleur. Et c'est ce fameux miel toute fleur qui n'a pas toujours l'appellation qui correspond à ce qu'on trouve dans le toute fleur. Alors c'est vrai ça, Franck Alétru, que c'est de plus en plus rare de trouver du miel en France, qui soit du miel déjà et qui soit du bon miel en plus.
Alors on va voir les choses d'une façon très pragmatique. On consommait 42 000 tonnes de miel, dont à peu près 30 000 étaient produits par les apiculteurs français. À travers des épisodes très dramatiques au niveau des pesticides, nous sommes tombés, les pires années, à 10 000. On peut remonter jusqu'à 20 000.
En 20 ans, hein, voilà, 20-30 ans,
voilà.
Là.
On peut remonter à 20 000, parfois en 2015, ça a été une très bonne année, bon, on remonte comme ça. Bien évidemment, pendant ce temps-là, la consommation du miel, elle se maintient, voire elle augmente. Quand j'ai démarré le métier, il y a 40 ans, on consommait 400 grammes par habitant par an. Aujourd'hui, on consomme plus de 700 grammes par habitant par an en France. On est loin de nos voisins allemands, 2 kilos par an, par habitant. Bon, évidemment, avec cette absence de matières premières, certains industriels se sont dit « nous allons importer du miel ». Mais cette chute de production, elle est mondiale. Donc certains, avec des esprits mal intentionnés, on dit on va essayer de compenser cette différence de miel à travers de la fraude, fraude que nous chassons et qu'on arrive petit à petit à cerner. Et aujourd'hui, d'année en année, car cette lutte elle est européenne, très bien organisée, commence à porter ses fruits, heureusement. C'est ça la bonne nouvelle.
Yannick Pertraud, vous avez vu, vous avez constaté un effondrement de votre profession sans doute aussi, hein, parce que c'est très difficile, oui. Du coup, hein, de survivre compte tenu de la baisse des abeilles et donc de la baisse de production du miel. Mais qu'en est-il de vos ruchers à vous ?
Alors, je suis beaucoup plus jeune, je suis installé depuis 5 à 6 ans. Notamment, j'ai développé mon cheptel, puisque, comme vous l'avez dit, je suis éleveur et producteur, ce qui m'a permis de maintenir, voire d'augmenter ma production. Parce que j'estime que maintenant, il faut maîtriser tous les risques. Et il y a énormément de risques, parce qu'on parle des risques d'élevage, on parle des risques notamment des prédateurs, de la varroa, du frelon asiatique.
Le frelon asiatique, oui.
Donc, ce sont autant de choses qu'il faut essayer de maîtriser par soi-même. Voilà. Ceci dit, on a quand même des enjeux à venir qui est de pouvoir maîtriser le taux de mortalité hivernale. Pour exemple, l'hiver 2017-2018, pour nous, a été catastrophique parce qu'on a démembré à peu près 30% de mortalité, ce qui est énorme. L'année dernière, ça s'est très bien passé puisqu'on a eu à peu près 3% de mortalité. Cette année, je ne serais pas surpris d'avoir un taux aux environs de 15%.
Mais à quoi est-ce dû ? Est-ce que c'est dû à des raisons climatiques ? Parce que le frelon asiatique, il est toujours là. Enfin, les risques fluctuent en fonction de quoi ?
Oui, mais pas que. Le frelon asiatique, cette année, j'ai quasiment pas eu à en souffrir puisque la chaleur, notamment de la période estivale, a freiné son développement. Donc, nous a pas porté préjudice.
Et vous, Yannick Pertraud, vous vendez du miel exclusivement français, celui que vous faites ?
Exclusivement ce que je fais, oui.
Avec une seule fleur ou avec des mélanges ?
Ça dépend la saison. Ça dépend la saison. Je prends un exemple. Autant l'année dernière, on a eu une très belle période sur l'acacia, donc on a eu des très bons miels d'acacia. Cette année, on n'en a pas du tout eu parce que la floraison n'est pas arrivée correctement, il y a eu les gelées. Donc c'est aléatoire. Un miel n'est jamais identique d'une année sur une autre. Cette année, on a eu plutôt un triptyque, c'est-à-dire un mélange de tilleul, de ronces et de châtaignier. Voilà. Donc, pas les toutes fleurs, mais vraiment les miels qui seraient monofloraux vont s'adapter aux périodes, vont s'adapter aux changements climatiques.
Vous parliez, Franck Alétru, en tant que président du syndicat national d'apiculture, vous parliez de ces fraudes aujourd'hui massives, hein, donc au miel. 42% des miels, c'est souvent les moins chers, en effet, oui. Ne sont pas conformes à la réglementation. Et c'est ce qu'on voit dans le film, hein, La bataille du miel, qui sera diffusé sur France 5 ce soir. Souvent, ce qu'on voit sur l'étiquette ne correspond pas à ce qu'il y a en fait dans le pot. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs types de fraudes. C'est-à-dire soit l'origine spécifiée française n'est en fait pas française, c'est d'une origine étrangère, donc c'est mensonger. Soit c'est parce que les miels sont mélangés alors qu'on nous a vendu typiquement un miel monofloral. Soit encore carrément parce que c'est du faux miel. Et donc là, on parle de sirop de sucre et on n'a pas les moyens de sentir que c'est du sirop de sucre et pas du miel. Alors, c'est toutes ces fraudes-là
Voilà, toutes ces fraudes-là, on les a détectées.
Que vous combattez.
Et on les combat et les fraudeurs ont beaucoup d'imagination. Donc, à mesure qu'on arrive à détecter une fraude, ils en imaginent une autre. Et il faut à nouveau mettre un outil de détection, un outil d'analyse, améliorer les outils d'analyse de laboratoire. Et petit à petit, c'est ce qui fait qu'on est en train, je pense, de remporter cette bataille. C'est que le champ de la fraude commence à être épuisé. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé sucre de canne, ils ont utilisé sucre de riz, ils ont utilisé le sucre tout simplement de betterave, etc. C'est celui qui est au demeurant le plus dur à détecter parce qu'il ressemble beaucoup au miel. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux outils avec des résonances magnétiques nucléaires. C'est des investissements extrêmement lourds pour le laboratoire. Par contre, c'est une véritable radiographie du miel, en quelque sorte, hein, et on voit tout de suite s'il y a problème ou pas. Quand il s'agit réellement de miel complètement fabriqué, il n'y a pas de pollen dedans. Or, dans tous les miels, c'est justement leur signe, c'est leur carte d'identité. Dans un miel de châtaignier, il doit y avoir du pollen de châtaignier. Dans un miel d'acacia, il doit y avoir un pourcentage minimum de pollen d'acacia. Donc, cette empreinte, cette carte d'identité pollinique, eh bien ça, il n'est pas facile pour les fraudeurs de la fabriquer, bien qu'ils ont des petites techniques aussi là-dedans, mais c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Bon. Alors que vous, Yannick Pertrou, vous n'avez pas ce problème-là, puisque tout votre miel est artisanal, c'est-à-dire que vous
tout le miel est
tout à la main.
Tout à la main, oui.
Depuis le pollen jusqu'à...
Depuis la belle, jusqu'au
la mise en pot.
Voilà, c'est ça, oui.
Ce label bio, vous l'avez obtenu en mars 2019.
C'est ça. Oui.
Donc c'est assez récent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire? Parce que quand on imagine en fait des champs, on se dit ben oui, mais on peut pas empêcher les abeilles d'aller butiner dans le champ voisin. Donc ça veut dire quoi qu'il est bio votre miel?
Alors déjà, il y a des gens d'EcoCert, puisque je suis certifié par EcoCert, qui passent chez moi pour me certifier. Donc ils regardent où se trouvent les ruches, comment je les gère, c'est-à-dire s'il y a bien des reines notamment, c'est la première chose à s'assurer, de voir quel est mon mode d'extraction, mon milieu d'extraction, ma miellerie. Donc j'extrais uniquement sur de l'inox à froid. Ensuite, quel est le processus pour traiter les essaims contre la varroa, qui est le fléau numéro 1, en utilisant aussi des produits qui sont bio. C'est aussi utiliser correctement les cires, réutiliser ces cires, et c'est aussi pour moi, je dirais, garder la notion du vert. Vous avez pu le voir dans les pots, tous mes pots sont en vert. Parce que je sécurise, je n'utilise pas de carton en paraffiné. J'estime qu'il y a un risque et que le vert neutralise ce risque.
Je voudrais qu'on revienne un instant avec vous, Franck Alétru, sur le fait que la consommation française est toujours donc de 45 000 tonnes, oui. Est aujourd'hui couverte aux deux tiers par des importations. Oui. On sait que ça vient d'Allemagne, on sait que ça vient de Chine, d'Ukraine, oui. Et surtout d'Espagne. Oui. Or, ce qu'on voit dans la bataille du miel, c'est qu'en Espagne, ils ont des immenses espaces sauvages. Avec des fleurs qui poussent vraiment dans la nature et qui n'ont pas besoin de pesticides, n'ont besoin de rien du tout. Parce que ça va très bien. Les ruches se portent très bien, les abeilles aussi. Ils ont 2,5 millions de ruches, des espaces naturels sauvages. Est-ce que ça fait de ce miel d'Espagne un miel meilleur? Parce que les fraudes sont souvent, justement, au miel d'Espagne. On dit que c'est du miel français, puis en fait, c'est du miel qui vient d'Espagne. Est-ce que c'est grave, ça?
Alors, à part
c'est une fraude, bien sûr. Mais...
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on étiquette comme étant un miel français, un miel qui ne vient pas de France, c'est une fraude. À partir du moment où on doit compenser un manque de production et qu'il faut répondre à une attente des consommateurs, si on va chercher chez nos voisins européens un produit de qualité, c'est ça qui est important. Et là, c'est vrai que le centre de l'Espagne, qui est dénué totalement d'agriculture, rien à voir avec l'extrême sud où ils font c'est un univers de plastique, tout est sous des bâches, sous des serres, il y a plus une abeille là-bas. Hein. C'est que d'un univers pesticide, ils sont tous partis. L'apiculture espagnole est en pleine croissance, comme vous le disiez. Ils ont des produits de qualité, ils ont un pollen de qualité, parce qu'ils sont dans un univers, entre guillemets, relativement propre. Il y a des zones en France encore comme ça. Et dans ces zones-là, les abeilles vont bien. Et depuis que nous avons fait interdire un certain nombre de produits, tout particulièrement les néonicotinoïdes, ces insecticides terribles qui ont décimé les populations pendant 20 ans, petit à petit, il faut le temps que le sol se dépollue, parce qu'évidemment, il y a une mémoire du sol au niveau de la chimie. Petit à petit, on voit le bien-être au niveau de nos colonies réapparaître et les pertes hivernales diminuer avec parfois des pics, comme le disait Yannick, qui sont souvent liés à la pression du varroa. Voilà, c'est souvent lié à ça.
Depuis l'amendement à la loi alimentation en 2018, la mention des pays d'origine des miels mélangés est obligatoire. Ça a changé quelque chose, ça?
Alors, hélas, ça a été retoqué la semaine dernière par Bruxelles, à notre grand désarroi. Donc,
Ça aurait changé quelque chose.
Nous avions demandé donc un étiquetage avec un ordre décroissant et l'origine précise des pays, c'est-à-dire qu'en premier, on mettait le miel le plus abondant, et ensuite les miels le moins abondant en décroissant. Ça a été retoqué par Bruxelles.
Yannick Pertrou, ça vous fait du tort, ça, cette concurrence espagnole qui donc provoque une chute des prix pour définir le juste prix d'un bon miel comme le vôtre? Est-ce que c'est compliqué du coup?
Je dirais oui et non, parce que les gens recherchent avant tout un terroir. Je compare souvent le miel à un vin. C'est-à-dire, il a un goût particulier là où il est fait. Donc les gens vont rechercher un tilleul, par exemple, de Picardie, vont rechercher un châtaignier des Yvelines. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être en mémoire des miels de leur enfance et ils veulent retrouver ce goût. Voilà ce que j'ai principalement dans ma clientèle.
C'est exactement ce qu'a voulu faire le réalisateur Patricio Guzmán, retrouver un goût d'enfance. On va écouter la Madeleine.
Il y a du miel. Donc voilà, c'est une ruche. On en fume sous le cadre. Ça fait bien valoir notre présence. Les abeilles comme ça sont moins nerveuses. On enlève.
N'est-ce pas Matteo Caranta qui a voulu retrouver un goût de l'enfance,
absolument.
Patricio Guzmán.
Le réalisateur chilien Patricio Guzmán qui a reçu l'œil d'or du meilleur documentaire à Cannes cette année pour La Cordillère des Songes qui vient de sortir. La Cordillère des Songes, c'est le troisième volet d'une trilogie documentaire qui explore l'histoire de la dictature de Pinochet au Chili. Et dans ce troisième volet, ici, il fait des Andes le témoin inamovible de l'histoire des hommes. Il procède comme ça, Patricio Guzmán, par couches successives pour questionner la mémoire et l'oubli. Eh bien, pour sa Madeleine, il se souvient d'un dessert, lui aussi, composé de multiples couches qu'il appelle des capas en espagnol, des capes. Vous allez voir.
Ma Madeleine, c'est une tarte qui s'appelle torta de mil hojas en chilien. C'est une tarte qui s'est composée de petites capes. Entre les deux capes, il y a manjar blanco, confiture de lait. Donc, c'est une bombe, parce que c'est très gros, comme ça, grand, de 50 cm. Et c'est délicieux. C'est sucré et c'est un peu dur. Il a un craquelé intéressant que je me souviens maintenant même comme il est. C'est pas possible de le dire, c'est un secret, c'est une pensée, c'est abstrait. Mais quand on ferme la bouche avec cette tarte, et on a la sensation d'être dans un autre monde. C'est la transposition de la réalité à la fantaisie. C'est ça les choses que tu manges, la fantaisie. Ça c'est magnifique. Quand on est petit, toutes les choses sont interdites. La moitié du monde est interdite. Donc ça, c'est un prix. Un prix à cause de l'école, ou le comportement, la bonne éducation, ou un jour spécial dans l'année, etc. Malheureusement. Si tu manges un peu, je me souviens de l'école, de ma maison, de ma mère, de la rue, de toutes les aventures quand j'étais petit, de toute ma vie. J'habitais dans cette époque en Viña del Mar, qui c'est une ville magnifique en face de la mer. Donc je me souviens de la plage, de l'ambiance de la plage, les bruits. Et ça a été pour moi un ciel bleu, magnifique, avec soleil. Et la sensation de l'eau quand tu entres dans l'eau et tu es petite.
Tout ça, c'est ce que vous procure une cuillère de mille feuilles de confiture de lait.
Tout à fait. C'est un dessert qui est en même temps une machine de tombe.
Voilà une machine du temps, Matteo Caranta. Ça vous procure la même chose, Franck Alétru, Yannick Pertraud, le miel. C'est comme une machine du temps pour vous. Vous faites oui de la tête, Franck Alétru.
Oui, tout à fait. C'est vraiment... Bon, faut savoir que l'apiculture, en fait, elle a démarré avec l'humanité. On a retrouvé dans les grottes de l'Araña, justement au sud de l'Espagne, un témoignage qui a plus de 8000 ans, hein, une peinture rupestre qui témoigne de première activité apicole. Donc on sait que nous, tous les jours quand on est dans nos ruches, on reproduit un mouvement, des mouvements, des gestes, des observations de nos abeilles. Nous sommes des éleveurs, nous sommes aussi des producteurs. On est des éleveurs de rennes, on est des éleveurs d'essaims. Donc on est vraiment on perpétue la vie et on sait que nos mères, nos mamans sont les abeilles puisque c'est les abeilles étaient là il y a des millions d'années et c'est grâce à elles qu'il y a cette diversité florale. C'est par la pollinisation. Donc on a un énorme respect quand on est devant nos ruches et on a un devoir. On a réellement un devoir envers elles, devoir de protecteur. Et d'ailleurs, on dit souvent qu'on élève ces abeilles en bon père de famille.
Vous disiez tout à l'heure que le goût du miel avait ce goût en fonction du terroir si particulier, ce qui fait qu'un miel de châtaignier des Yvelines n'a pas nécessairement le même goût qu'un miel de châtaignier, par exemple, d'Ardèche ou de Corse. Qu'est-ce qui fait que certains miels ont des goûts différents selon les apiculteurs d'une même région, alors? Votre miel à vous aura de toute façon un goût différent d'un miel d'un autre apiculteur des Yvelines, miel d'acacia, ça sera pas le même, comme s'il y avait une pâte de la ruche particulière ou...
Oui, il y a surtout la pâte des abeilles, parce que c'est elles ça. Qui vont composer le miel. Donc elles vont céder du biotope d'environ. De ce biotope, vous avez des échanges multifloraux, c'est-à-dire que vous avez peut-être 30% de tilleul, vous avez peut-être 50% de châtaignier, et le restant venant de la ronce. Donc, typique un biotope à l'intérieur des Yvelines qui peut être différent du sud, de l'est ou de l'ouest des Yvelines. Donc automatiquement, le miel sera différent.
Et qu'est-ce qui fait, Franck Alétru, que certains miels sont liquides et d'autres crémeux?
Alors là, c'est tout simplement la composition, le rapport naturel des sucres à l'intérieur du miel. C'est-à-dire que vous avez du glucose et du fructose, qui sont les composants naturels donc du nectar. Et en fonction de leur teneur, vous allez avoir leur teneur naturelle. Vous allez avoir un miel d'acacia qui va rester liquide pendant jusque 2 années. Et un miel de printemps, un miel de crucifère et d'aubépine peut cristalliser en quelques jours. Sans intervention de l'homme. C'est un phénomène totalement naturel. Voilà.
Oui, vous opinez du chef également, Yann Hypertro, oui. C'est exactement comme ça que les choses se passent. On parlait tout à l'heure du juste prix d'un bon miel et des fraudes. Donc, comment fait-on, là la question je la pose à tous les deux, comment fait-on pour reconnaître un bon, un vrai miel, pour ne pas se tromper? Comment savoir ce qu'on achète?
La première chose, même si aujourd'hui l'étiquetage n'est pas au niveau que l'on souhaiterait qu'il soit, mais quand vous voyez des étiquettes où il y a écrit miel de l'Union Européenne et origine hors Union Européenne, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est produit sur la planète Terre, c'est déjà une première information, mais ça manque quand même un peu de précision. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on achète réellement. C'est supposé quand même avoir subi des contrôles, logiquement, d'analyse, mais c'est quand même le flou total, et ça va à l'inverse des attentes des consommateurs. Les états généraux de l'alimentation l'ont démontré. On souhaite avoir acheté au circuit le plus court. Les consommateurs veulent acheter au producteur. Donc le premier réflexe, c'est essayer d'acheter les produits de l'apiculteur, de la région, les produits dont on a la trace, dont on a l'identité. On sait chez qui on le prend, on voit peut-être l'apiculteur travailler, donc on a une certaine traçabilité, une certaine sécurité. Et ensuite, l'étiquetage doit être de qualité, avec une précision.
Voilà, c'est exactement ce qu'on voit sur les pots des miels de Yannick Pertraud. Vous nous avez d'ailleurs apporté un échantillon, ou même plusieurs échantillons de vos miels. On va terminer avec ces différents pots que vous nous avez apportés, Yannick Pertraud, et peut-être avec les vertus thérapeutiques de certaines d'entre elles, parce qu'on prête au miel, au pluriel cette fois, des vertus thérapeutiques. Par exemple, le miel de thym, il serait bon pour la gorge et les maux de gorge.
Alors, généralement, c'est très difficile pour nous d'en parler, parce que c'est régi par énormément de lois, tout ce qui est, communication thérapeutique ou médicinale. Cependant, on peut relever que certains miels seraient bons à prendre pour certains maux de gorge ou certains maux hivernaux. Voilà.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté?
Alors, je vous ai apporté, pour commencer, on va suivre en fait la saison. Tout simplement, on va commencer avec un miel de printemps. Alors, comme disait Franck tout à l'heure, ce miel cristallise au bout de 15 jours.
Ensuite,
dans la saison, on va avoir le tilleul de Picardie, puisque malheureusement, on n'a pas eu de tilleul. Donc, le tilleul de Picardie est monofloral. Il est en Picardie fait sur des tilleuls qui ont entre 120 et 150 ans. Bien protégé, c'est-à-dire à l'abri de toute, je dirais, culture conventionnelle. Donc là, on est vraiment dans un milieu bio. On va suivre en fait ensuite le miel de châtaignier des Yvelines. Ce miel ensuite va donner place au miel de forêt qui est chez nous, je dirais, un amalgame, ce triptyque que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le tilleul, le châtaignier et la ronce, qui est un miel particulier et vraiment typique à la saison 2019. Je rappelle que les miels sont uniques, c'est-à-dire qu'ils ne seront jamais identiques d'une année sur une autre. Voilà.
Eh bien, la dégustation est ouverte. Nous allons déguster en écoutant la cerise sur le gâteau. Merci beaucoup à tous les deux.
Mmh.
Pierre Hiverna, vous nous rapportez donc un reportage des États-Unis qui nous emmène dans une ferme particulière.
Eh bien, tout à fait. Je vous emmène dans la vallée de l'Hudson, à une heure de New York, dans une ferme où on fait d'ailleurs un miel qui est absolument excellent, qui est un miel de forêt et que l'on fait trois fois par an seulement pour trois saisons. Ça s'appelle Blue Hill Farm. C'est l'une des fermes les plus passionnantes qui soit, qui est pilotée par l'un des grands penseurs américains du mieux manger, Dan Barber. Ce projet, en ces temps où les États-Unis de Trump quittent officiellement l'accord de Paris sur le climat, paraît presque en dehors du temps. Car pour bien comprendre toute la saveur américaine de cette aventure, il faut en effet se transporter dans les années 60 et imaginer un autre républicain, d'une toute autre classe que Donald, banquier de père en fils, mais surtout très impliqué aux côtés de Kissinger dans la politique internationale, David Rockefeller, marié à Peggy Rockefeller. Le couple hérite d'un gigantesque terrain avec une forêt à une heure de Manhattan, avec une gare pas très loin, et vous vous dites assez logiquement qu'un banquier normalement constitué et au fait du développement urbain de New York va illico presto faire fructifier sa fortune dans l'immobilier. Et puis, autre temps, autre mœurs sans doute, ou plus sûrement, autre idée de la philanthropie et du bien commun, le couple Rockefeller décide au contraire de protéger tous ces terrains en créant une ferme pédagogique pour les enfants. Non mais entendons-nous bien, Caroline, nous sommes aux États-Unis et je ne vous parle pas de quelques huttes en bois avec quatre poules, trois chèvres et un âne qui font les malins le mercredi après-midi. Non, Blue Hill Farm est une ferme qui produit des tonnes de légumes et de produits laitiers avec de vraies vaches, le tout sans aucune aide que le soleil et la pluie. Et pour écouler toutes ces bonnes choses, il y a bien le marché du coin. Mais en 2004, l'aventure va passer à la case gastronomique, car les Rockefeller entendent bien que l'on puisse goûter ces merveilles en créant un restaurant. Les voilà qui publient une sorte d'appel à candidature à destination des chefs, et bien sûr, tous les étoilés américains envoient leurs plus beaux dossiers. Curieusement, c'est un certain Dan Barber, inconnu au bataillon du Guide Rouge, qui gagne le droit d'investir l'immense grange, devenue aujourd'hui le rendez-vous incontournable de tous ceux qui aiment manger la nature. Alors pourquoi lui, me direz-vous? Parce que le gars avait un modeste restaurant à Manhattan où il s'échinait jour après jour à servir des viandes issues d'animaux dont il connaissait chaque éleveur, des légumes dont il avait vérifié les méthodes de production de chaque maraîcher, bref, l'homme de la situation qui, voici deux semaines, beau retournement de l'histoire s'il en est, a accroché sa deuxième étoile. J'avoue que dîner chez Dan Barber est une expérience de l'extrême qui vous pousse à sérieusement réfléchir sur le rôle d'un cuisinier. Moi qui croyais que celui-ci était forcément un créateur fricotant avec le statut d'artiste, Dan Barber m'a mis un doute. Car partant du principe qu'il a le meilleur radis possible, les meilleurs œufs, les meilleures carottes ou la meilleure viande, Dan Barber ne semble n'avoir qu'une envie, cuisiner le moins possible. C'est un cuisinier de l'infra, de l'atome, un type qui passe sa vie à imaginer comment vous faire approcher le goût du squelette de la nature sans ramener son ego au milieu de la table. Bref, un cuisinier en dehors des modes, à qui les Rockefeller ont su faire confiance sans penser d'abord à optimiser leur statut fiscal. Autre temps, autre mœurs.
Merci beaucoup Pierre Hiverna pour cette chronique. On retrouve bien entendu sur le site de France Culture, à la page des bonnes choses et sur le site d'Alimentation Générale où vous mettrez d'ailleurs un certain nombre de vos articles, reportages issus de ce voyage aux États-Unis. Les bonnes choses se poursuivent en réécoute et en podcast sur le site de France Culture. Toute l'équipe, Stéphanie Villeneuve, Virginie Lodio, Jean-Christophe Francis, Milena Alig et notre technicienne du jour, Marie-Claire Oumabadi, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Tout de suite, eh bien, nous allons retrouver le journal et ensuite ce sera Signe des Temps par Marc Weitzman. Bon dimanche à tous.